Bonjour à chacune, chacun, ceux que je n'ai pas encore salués. Je vous invite à ouvrir votre Bible à nouveau en 1 Timothée au chapitre 4, chapitre où nous sommes parvenus dans notre lecture hebdomadaire. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est dans ce chapitre que nous voyons la recommandation qui est faite à Timothée de s'appliquer à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Et en particulier s'appliquer à la lecture, il s'agit ici d'une lecture publique de la parole, comme il était coutume de faire dans les synagogues où l'on choisissait un rouleau d'un prophète, donc un livre biblique en particulier, et qu'on allait lire morceau après morceau au fur et à mesure des rencontres qui avaient lieu. Cette lecture publique, on a plusieurs années que nous la faisons, et nous en sommes en ce moment dans cette épître à Timothée. Alors, ce matin, j'aimerais que nous puissions entendre un appel urgent que Dieu nous adresse. C'est l'appel à la piété. La lettre adressée à Timothée, c'est une lettre pressante de recommandation. Et l'une d'entre elles, de ces recommandations, résume à elle seule le reste. On la trouve au chapitre 1, versets 18 et 19, et il dit « La recommandation que je t'adresse, Timothée mon enfant, c'est que tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. » Et il rajoute cette conscience « Quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage quant à la foi. » Combattre le bon combat pour ne pas faire naufrage. Un naufrage, c'est quand un bateau ne va pas arriver à bon port, mais va subir des dommages en cours de route, à tel point qu'il va couler ou qu'il va s'échouer, et perdre cargaison et généralement passagers et membres d'équipage. Naufrage quant à la foi. Alors il s'agit de combattre le bon combat. Et c'est une recommandation qui est adressée, qui est forte, et qu'on retrouve à la fin de l'épître, au tout dernier verset, du tout dernier chapitre, 1 Timothée chapitre 6 verset 20, et 21, il dit « Ô Timothée, garde le dépôt. Garde le dépôt. » Et il rajoute au verset 21 que quelques-uns, justement, qui ne le font pas, se sont ainsi détournés de la foi. Il dit « Garde le dépôt. » Nous, quand on met notre argent dans une banque, on espère qu'on va soigneusement garder ce qu'on y a déposé. Et voilà, tu as reçu des tas de choses. Tu as reçu la parole de Dieu, une doctrine saine. Garde-la précieusement. Ne le laisse pas être allégé, détourné, transformé. Garde le dépôt. Alors, sommes-nous étonnés que dans notre chapitre à l'étude, au chapitre 4, ça commence par une prophétie du Saint-Esprit sur le fait que quelques-uns abandonneront la foi. Il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à autre chose. Et la question qui se pose à chacun de nous ce matin, c'est est-ce que je combats le bon combat de la foi? Est-ce que je garde le dépôt? Est-ce que je tiens le bon cap? Alors, pour tenir le bon cap, pour combattre le bon combat de la foi, et pour ne pas faire naufrage quant à la foi, il y a une clé majeure que cette lettre adressée par Paul à Timothée va exposer. Et cette clé, c'est une vie de piété. L'épître à Timothée, à elle seule, regroupe près de la moitié de l'utilisation des mots, du mot piété, de ses dérivés que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a un certain nombre de mots, de fois, hein, ce mot, la piété, est employé. Mais alors, la lettre adressée à Timothée, en quelques pages, à elle toute seule, elle en prend la moitié. Et c'est dire si ce sujet de la piété est donc un thème central de cette petite épître. Combattre le bon combat, garder le dépôt, ne pas faire naufrage quant à la foi, eh bien Paul va dire à Timothée, il y a une clé, c'est la piété, une vie de piété. Et la piété, c'est un appel urgent que Dieu m'adresse. Vivre une vie réellement de piété. Alors qu'est-ce que ça veut dire, la piété? Parce qu'il y a une mauvaise conception de la piété. Le dictionnaire définit la piété comme la dévotion, c'est-à-dire le fait d'être dévoué, l'attachement respectueux et fervent. On voit le zèle, hein, et on voit l'attachement du cœur, l'attachement respectueux et fervent à Dieu. Alors on voit que la piété, elle est prioritairement une attitude du cœur. La piété, c'est d'abord un dévouement qui vient du cœur, c'est un attachement fervent, ça sort du cœur. Et bien sûr, cet attachement fort, eh bien, son authenticité va se voir par des actes qu'on qualifiera d'actes pieux. Mais j'insiste sur le fait que la piété, c'est d'abord et prioritairement quelque chose qui vient du cœur. Et ce n'est pas des œuvres, d'abord. C'est un amour pour Dieu, c'est un zèle pour Dieu, c'est un attachement à Dieu. C'est une vie livrée à Dieu, dévouée au Seigneur. Et justement, une mauvaise conception de la piété, c'est une conception de dire, bah, tiens, voilà, quelqu'un de pieux, c'est une conception qui s'attache presque exclusivement aux actes de piété, à l'extérieur religieux bien visible. Faire un certain nombre de fois sa prière, avoir récité ceci, être allé tant de fois là, avoir fait telle cérémonie, avoir mangé ceci, ne pas avoir mangé cela. Et la piété, on peut y réfléchir au travers des différentes religions. Est-ce que j'ai bien fait ceci? Est-ce que j'ai bien fait cela? Que je me suis rendu à tel endroit, en temps, en heure, est-ce que j'ai fait mon carême, est-ce que j'ai fait... Et puis, on fait une sorte de liste accumulative, on dit, oh là là, ben celui-là, il est pieux, hein. Il prie 5 fois par jour. Il se rend à l'église tous les jours. Et puis, dans sa maison, il a accroché des tas de choses qui rappellent la Bible. Hein. Ici, une croix. Et puis là, un verset. Et je n'ose continuer à travers des tas de choses de piété que nous pouvons trouver dans le catholicisme ou dans l'orthodoxie. Les icônes, les statues, les bougies qu'on va faire brûler, autant de choses de dévotion. Et du coup, il y a quelque chose auquel on doit être sensible. C'est que, vous savez, l'homme, l'être humain, il aime peu Dieu, mais il adore la religion. L'être humain, il aime la religion, les rites, l'apparence, les processions. Et du coup, on va avoir une tendance à qualifier la piété par toutes sortes d'actions extérieures visibles, par les actes religieux. Et ça devient vite donc des prescriptions, des récitations, la participation à des cérémoniels et autres choses semblables. Ce genre de choses où Jésus disait « Ne faites pas comme les païens qui pour prier utilisent des vaines redites. » Et ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce sont les moulins à prière. Et plus on va le faire tourner, son moulin à prière, et plus on est quelqu'un de pieux. Et l'apôtre ici va nous citer deux exemples de dérives sous couvert de piété. Deux dérives dont il va même jusqu'à dénoncer l'origine directement satanique. La première mentionnée, nous la trouvons donc au verset 3, ainsi que la deuxième. Voilà un exemple. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Voyez, dans la piété, quand la piété, on la prend d'abord comme des actes religieux extérieurs, des œuvres. On dit, bon, ben, il faut progresser dans la piété, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Oh, on est bien plus pieux si ceci, si cela, si on s'abstient de ceci, si on s'abstient de cela. Et là, ici, deux choses nous sont données. Ça va jusqu'à prescrire de ne pas se marier. Comme si on disait, c'est une piété supérieure que de vivre le célibat. Or, pourquoi le mentionner? Simplement parce que nous connaissons cette dérive que l'apôtre Paul n'hésite pas à appeler, à qualifier d'origine satanique. Nous le connaissons dans l'Église catholique. Lorsqu'on interdit aux prêtres de se marier ou aux religieuses, par une sorte d'excès de piété en disant, ben voilà, quand on est célibataire, on est encore plus consacré à Dieu, on ne se souille pas, hein, quelque part, avec les choses bassement humaines, la vie de couple. Non, 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 non. Un vrai homme de Dieu pieux, il ne se marie pas. C'est pas ce qui est toujours actuellement en cours. Et ça cause des tas de problèmes. Ça, c'est quand on s'attache à une piété de façade, à une piété d'œuvre religieuse. Le deuxième exemple qui est donné concerne la nourriture. Oh, non, non, ça ne va pas manger, ça c'est du porc. Ne mange pas du porc. Et puis tu ne vas pas manger ceci, et puis tu ne vas pas boire cela, et puis on est un bon religieux quand on a une grande liste de choses desquelles on va s'abstenir. Ces interdits alimentaires sont courants, hein, dans l'islam, dans le bouddhisme, dans le judaïsme. On pense aussi aux jeûnes. Parce que le fait de ne pas manger, c'est certains aliments, ou alors ce sont des périodes. On pense au ramadan, on pense au carême, on pense à... Alors, quand on l'a fait, on est quelqu'un de pieux. On a fait son devoir religieux, on a tenu le choc là, oh là là. Je suis quelqu'un de pieux. Regardez en Colossiens ce qu'il en est dit. Parce que ça peut avoir une apparence de piété, alors qu'au contraire, toutes ces choses-là détournent de Dieu. En Colossiens, au chapitre 2, au verset 20, il dit, si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ah, ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et c'est pourquoi dans le Nouveau Testament, vous ne trouverez pas des tas et des tas de règles religieuses pour être un bon chrétien qui fait ses rites, qui fait son cérémoniel, qui fait ses prières, ses récitations, et quantitativement. Non. La piété, c'est d'abord l'attachement fort du cœur envers son Seigneur. J'aime Dieu. Je suis attaché à Dieu et je vais lui donner ma vie. Je vais décider que ma vie soit dirigée par ce que Dieu veut. Alors justement, c'est important de dire que la piété, ce n'est pas être un ermite. Ce n'est pas non plus la piété... être en prière, vous savez, durant des heures et des heures, et puis le reste des heures, on psalmodie, et on est là toute la journée, peut-être retiré du monde, sur sa montagne, dans son monastère, quelque part. On dit, moi je suis pieux, je médite. Oh, les choses de cette vie, oh là là, c'est bassement terrestre. Le corps, c'est bassement corporel. On trouve énormément ça dans l'hindouisme et le bouddhisme. Et dans la philosophie grecque, pour lequel le corps est un peu une prison pour l'âme humaine. On va élever notre esprit, notre être, plus haut que notre corps. On va se délivrer des contingences de cette terre pour s'élever jusqu'à Dieu. Eh bien non, la piété... c'est pas du tout ça. Il n'y a pas dans la piété de jeter un petit peu dehors la corporalité. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Souvent, on s'imagine un peu le mystique là qui plane, détaché des choses de cette terre. Il est dans les sphères spirituelles. Non. Et le Seigneur veut clairement nous dire que notre piété doit se vivre pleinement dans notre corporalité, dans notre nature d'être humain. La piété, c'est bien notre attachement en tant qu'être humain au Dieu créateur. Dieu est esprit et il nous a créé corps, âme et esprit à son image, c'est tout. Et c'est bien corps, âme et esprit que notre piété va se vivre. Et pour souligner que la piété la plus parfaite n'a pas besoin de s'envoler et se retirer de son corps, vous savez, ces expériences mystiques, par exemple que le bouddhisme ou l'hindouisme appellent l'éveil, hein, d'où Bouddha, eh bien, notre texte au chapitre 3, verset 20, va dire quelque chose d'extraordinaire. Il dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Et ça, c'est fondamental. Parce que dans cette vision un peu païenne de la piété où on va commencer à s'élever dans des sphères et à quitter son corps et on n'a plus besoin de se, voilà, on va pas se marier, on va pas. Vous savez, par exemple, le Bouddha, c'était un prince, hein, le prince Siddhartha Gautama, et il s'est dit non, il faut que je trouve l'éveil, que j'accède à cette sphère spirituelle. Eh bien, il a quitté là où il habitait, il a quitté sa femme, il a quitté ses enfants. Merci pour la femme, merci pour les enfants. Pour aller passer le reste de sa vie assis à essayer de trouver l'éveil. Dieu nous dit tout à fait le contraire. Il nous dit le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Et c'est ça où on va dire la piété et la corporalité font très bon ménage. La preuve, c'est que Dieu lui-même est venu, s'est incarné. Hein, quand il dit qu'il s'est manifesté en chair, c'est qu'il s'est fait homme. Il a pris notre nature humaine. Il dit le mystère de la piété est grand. Oui, c'est quelque chose de grand que Dieu se soit fait homme et ça donne toute sa place à notre nature d'être humain. Et voilà pourquoi la piété, elle doit se vivre dans le quotidien. On n'a pas besoin d'être un célibataire et de dire ah non, moi je me consacre à Dieu. Je suis marié avec Dieu. On n'a pas entendu ça dans l'Église catholique ? Parce que si vraiment je veux une vraie piété la plus parfaite possible, il faut que toutes ces choses de la vie, ça doit prendre un aspect secondaire. Non, moi, c'est pas pour moi. Pas du tout. Dieu, lui, le mystère de la piété, c'est qu'il s'est fait homme. Amen. Il a vécu comme un homme, il a travaillé comme un homme. Il a mangé, il a bu, il avait des amis, il avait... Eh oui. Alors, ma piété, elle va se vivre au quotidien, elle va se vivre dans mon couple. Elle va se vivre quand je mange et quand je bois, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu, soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et Paul parlera même du fait de faire de l'exercice corporel, hein, tout à l'heure, en disant que c'est une chose utile. Oui, la Bible nous montre que la piété, ça se vit dans la vie quotidienne des hommes et des femmes sans qu'il faille se retirer en ermite ou chercher quelconque extase. Alors, la piété. Paul a montré à Timothée que la piété, d'abord, ce n'est pas la pratique d'œuvres religieuses avec ma petite liste et je coche, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est pas ça la piété. Et il lui a montré deuxièmement que c'est pas non plus une espèce d'approche méditative qui s'oppose à la vie humaine normale dans sa dimension familiale, professionnelle, sociale. Non. Alors comment ça s'exerce concrètement la piété ? Rappelons-nous que la piété sort d'abord du cœur. C'est l'attachement fort d'un cœur à Dieu. Et la question c'est comment se vit concrètement cet attachement ? Parce que c'est quoi s'exercer à la piété ? Comment ça se manifeste ? Eh bien, lorsqu'on est attaché à quelqu'un, en général, on communique avec lui. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça ? Si j'aime quelqu'un, que je suis attaché à quelqu'un, je vais communiquer avec lui, je vais lui parler, je vais l'écouter, il va me parler, je vais l'écouter. Eh bien, la piété va commencer d'abord par la communication avec Dieu. Quand on est fortement attaché à quelqu'un, je cherche à lui parler, à l'écouter, avec Dieu c'est pareil. La piété, c'est communiquer avec Dieu. Comment ? Eh bien, moi, je m'adresse tout simplement à Dieu, je lui parle. Ça s'appelle la prière. La prière n'est pas une récitation, ce n'est pas non plus une sorte d'extase. C'est simplement, comme je m'adresse à quelqu'un, je m'adresse à Dieu et je lui parle. Et puis, lui, il va me parler. Et il me parle en premier lieu et de façon privilégiée par le moyen qu'il a prévu à cet effet, et c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Il me parle prioritairement à travers elle. Alors, quand on est fortement attaché à quelqu'un, on est dans la communication, et bien être en communication avec Dieu, c'est lui parler et c'est l'écouter. Lui parler, c'est prier, et l'écouter passe prioritairement par lire la Bible. Donc concrètement, effectivement, la piété va se traduire par prier et lire la parole de Dieu. Dans la suite de cette communication et de cette présence particulière de Dieu près de moi, l'action que Dieu désire faire en moi va se poser ensuite la question de la vie de l'église locale. Parce que Jésus a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Une présence toute particulière du Seigneur. Et en Éphésiens 4, nous voyons que Dieu a établi dans l'église des ministères, pasteurs, docteurs, évangélistes. Pourquoi faire? Pour qu'on puisse progresser et devenir semblable à Jésus-Christ jusqu'à sa stature parfaite. Le Seigneur a, j'ai envie de dire, il a conceptualisé l'Église comme un moyen incontournable par lequel il va agir dans notre vie. Donc quand on est attaché à Dieu, eh bien le Seigneur a vraiment voulu, c'est son choix, donner à l'Église locale une place pour qu'on puisse vraiment mieux le connaître, s'attacher à lui, grandir en lui. Alors la piété, forcément, de manière concrète, va se traduire par le fait de me rendre régulièrement dans mon église locale et de m'y impliquer. D'autre part, je vous propose deux autres choses dans la piété. L'attachement à Dieu, ça suggère un dévouement, un investissement personnel, et ça c'est vrai envers toutes les personnes à qui on est attaché. Et cet attachement va impliquer donc peut-être deux choses qui tiennent fort au cœur de chacun. Notre temps et notre argent. Quand on n'est attaché à quelqu'un, on n'hésite pas à passer du temps. Du temps simplement pour partager, échanger, ou alors du temps pour rendre service. Et on va mettre peut-être certains talents, certaines capacités en œuvre par rapport à quelqu'un, ben, pour lui rendre service parce qu'on y est attaché et qu'on lui est dévoué. Et puis, on va mettre la main au porte-monnaie. Et on sait très bien que plus on aime quelqu'un et plus l'argent ou les cadeaux qu'on va faire ou l'investissement financier peut être important. Les parents le savent avec leurs enfants. On est même prêt parfois à faire des sacrifices financiers pour ses enfants parce que c'est ses enfants, quoi. Hein? Et qu'on veut leur offrir ça, et c'est voilà. Et pour le Seigneur, vous savez, notre temps, c'est comme une chasse gardée, hein. touche pas à mon temps, je l'investis dans ce qui compte pour moi, je ne vais pas perdre mon temps à des choses qui ne comptent pas. C'est comme pour mon argent, vous avez remarqué que l'argent, on l'investit pour des choses auxquelles on est attaché. Si vous n'aimez pas le chocolat, vous n'investirez pas votre argent dans le chocolat. on l'investit là où on est attaché, là où on a un attachement. Si j'aime voyager, je suis attaché au voyage, eh bien, j'arrive à avoir un budget pour les voyages. Si je suis attaché à autre chose, eh bien, j'arrive à avoir un budget pour cette chose-là. Et va se poser la question, tu es attaché au Seigneur. Alors ta chasse gardée de ton temps et de ton argent, ça va s'exprimer pour lui. Alors oui, on a souvent coutume de parler de la dîme, mais non pas comme d'une loi, tiens, il va falloir donner ça. Non, non, non. J'investis mon temps et mon argent dans ce à quoi je suis attaché. Et si on se souvient que la piété, ça vient d'abord d'un cœur qui est vrai pour Dieu. Si mon cœur est attaché à Dieu, aux choses de Dieu, alors c'est vrai que ma piété, tout naturellement, va s'exprimer par une part de temps et une part d'argent que je vais investir pour le Seigneur. Nous allons terminer par le fait que Paul dit à Timothée, exerce-toi la piété. Regardez, c'est le verset 8. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Le texte compare l'entraînement sportif à l'entraînement à la piété. Et ça peut nous surprendre de présenter comme une nécessité impérieuse le fait de s'exercer, de s'entraîner, de se discipliner pour la piété. On dit, ben, normalement, ça devrait sortir du cœur. Ça devrait être instinctif, inné. Pourquoi se discipliner ? Oh, pas de quoi être trop surpris. Nous connaissons fort bien avec nos bonnes intentions. Ah, les bonnes intentions, elles sont là. Mais on connaît aussi une sorte de pesanteur qui va souvent nous clouer au sol. On sait qu'on devrait faire ça et on a envie de le faire, mais oh, il y a une lourdeur qui fait qu'on ne va pas le faire. Parce que tout ce qui a de la valeur coûte un effort, coûte une persévérance, coûte un investissement. Il y a des choix à faire. Et qui dit choix dit sacrifice. Parfois, je ne peux pas tout avoir le beurre et l'argent du beurre. Et par exemple, si dans ma piété, je choisis de donner une part de mon temps au Seigneur, ce temps-là, je ne le passerai pas à autre chose. Il y a un choix. Qui dit choix dit peut-être sacrifice. Si dans ma piété, cette part d'argent, je veux la donner au Seigneur, eh bien cette part d'argent-là, elle ne sera pas pour autre chose que j'aurais pu m'offrir. Ça s'appelle un sacrifice. Et dans ma journée, le temps que je vais investir pour rencontrer le Seigneur, pour lui parler, pour l'écouter, lire la parole de Dieu, prier. Oui, c'est vrai, ce temps-là, peut-être je n'écouterai pas la radio pendant ce temps, ou je ne ferai pas ceci, ou je ne ferai pas cela. Mais c'est curieux comment nous ne trouvons pas le temps. Même pas 20 minutes pour rencontrer le Seigneur, si nous ne nous disciplinons pas. Quand on ne se discipline pas, comme un athlète qui dit oh, c'est jour d'entraînement, il y a entraînement aujourd'hui, 6 heures d'entraînement, demandez à des professionnels. C'est pas des athlètes du dimanche. Un vrai entraînement, une discipline. Eh bien, c'est il faut se rendre à l'évidence, quand on ne se discipline pas pour la piété, eh bien ça part à volo. Le temps pour le Seigneur, pour le rencontrer, lire la parole, lui parler, je ne vais pas le passer si je n'ai pas bloqué ce temps. Pour participer à la vie d'église locale, si je n'ai pas bloqué mon dimanche matin, eh bien il y a 5, 6, 8 choses très intéressantes qui viendront sans problème prendre la place. Ça, c'est sûr. de même que mon investissement dans la vie de l'église locale. Le temps que je vais prendre pour Dieu, pour évangéliser, pour parler de lui, pour servir dans l'église, pour avoir un ministère spécial. Oui, ce texte nous dit « Exerce-toi à la piété, l'exercice corporel est utile à peu de choses. » Alors, nous terminons sur cette promesse liée à la piété. D'abord, il y a une promesse liée à la pratique sportive. Vous le saviez, ça ? Oui. Quand on fait du sport, il y a quand même une promesse qui est derrière, c'est celle d'un corps sain, qui va être préservé peut-être des effets néfastes de l'obésité. Oui ou non ? Qui va travailler le muscle cardiaque et qui aura peut-être moins de chances d'avoir une insuffisance cardiaque. Et autre impact sur la santé, faisons du sport, c'est bon pour la santé. Ça, c'était la partie promotion sportive. Et d'ailleurs, outre la santé, le bénéfice quotidien du sport, c'est une certaine vitalité. Vous savez, c'est toujours très désagréable quand vous allez visiter quelqu'un qui habite dans un immeuble. Vous avez 4 étages à monter et au bout des escaliers, vous êtes mort. Ça, c'est parce que vous ne faites pas de sport. Voilà. Et vous êtes mort, quoi. Rincé. Bon, ben, quand on fait du sport, on a quand même le bénéfice quotidien d'une certaine vitalité. On est en forme, quoi. Ce n'est pas le premier pas de course qui va nous plomber la journée. Sans parler du côté esthétique, qui n'est pas sans compter. Hein. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle les gens font du sport, c'est le côté esthétique. Mais bon, hein ? Eh bien, ce sont des bénéfices utiles, n'est-ce pas ? Mais restreints. Paul dit « l'exercice corporel est utile à peu de choses ». Il ne dit pas que c'est inutile. Et on voit, c'est utile pour une bonne santé, pour une vitalité, pour un certain esthétisme, bon, c'est utile. Mais c'est utile à peu de choses, pourquoi ? Parce que c'est utile à... Ouais, à la santé, 2-3 trucs, c'est important, mais est-ce que c'est utile à l'âme ? Le sport n'est pas tellement utile à l'âme. Et puis c'est utile pour la vie présente, mais est-ce que le sport est utile pour la vie à venir, pour la vie éternelle ? Pour après notre mort ? Non. Donc c'est utile. Mais il y a quelque chose d'encore plus utile, c'est la piété. Il dit la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. La pratique de la piété va engendrer des bénéfices d'abord dans ma vie sur cette terre. Des bénéfices familiaux, des bénéfices professionnels, des bénéfices sociaux et des bénéfices dans mon âme. Mais ça ne va pas s'arrêter là. La qualité de ma piété aujourd'hui a un impact sur la vie éternelle. Quelqu'un tout à l'heure, un des jeunes, a parlé des récompenses. Hein ? Oui ? Oui, nous recevrons selon la qualité de notre vie chrétienne, selon la qualité de notre piété. Et il y a des gloires à recevoir. Paul disait par exemple, les afflictions que je traverse aujourd'hui, finalement, elles sont plutôt légères, elles sont à mettre en perspective avec l'éternité, parce qu'elles produisent pour moi, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, disait-il. Alors, la piété, ne passons pas à côté. Il y a un appel urgent du Seigneur à ce que nous nous exercions la piété. Ne soyons pas, bien sûr, comme certaines personnes dénoncées en 2 Timothée 3:5, qui ont l'apparence de la piété et qui ont renié ce qui en fait la force. Ah, on peut avoir une apparence. Mais ce qui en fait la force, c'est-à-dire une vraie et pleine communion avec Dieu, parce que la piété, sa force, c'est ce qui vient du cœur. C'est pas l'extérieur, c'est pas les œuvres. C'est d'abord la source, elle est dans le cœur. Le cœur pour Dieu. Alors, où en est notre piété? Et on termine par cette question. Où en est ta piété? Où en est mon attachement au Seigneur? Un attachement, s'il est authentique, qui va se traduire par communiquer avec ce Seigneur qui est si important. Où en est ma lecture de la Bible? Où en est le temps que je passe à prier? Qu'est-ce que je dis au Seigneur? Je lui parle au Seigneur? Je lui parle beaucoup, je lui parle souvent, je lui parle rarement? Je lui parle de quoi? Où en est ma fréquentation et mon implication dans l'église locale? Où en est le temps que je consacre et l'argent que je consacre au Seigneur? Autant de choses qui nous permettent un petit peu, comme une jauge, d'évaluer, de faire le point sur notre piété, sur la réalité de notre piété. C'est comme un petit peu dans le moteur, il y a cette jauge pour l'huile, on regarde si ça manque d'huile ou si ça manque pas d'huile. Eh bien, ces choses-là qu'on a citées, prier, parler au Seigneur, lire sa parole, la vie d'église, le temps et l'argent qu'on consacre au Seigneur, ce sont des indicateurs pour nous parler de la réalité ou pas de notre attachement de cœur au Seigneur. Parce qu'il est facile de dire « mon cœur est attaché au Seigneur ». Par contre, rien ne le montre, c'est dommage. L'apparence, mais pas de réalité. Alors, où est-ce qu'on en est? Et qu'allons-nous décider pour progresser? Progresser dans l'exercice de la piété, parce que ça en vaut la peine, c'est utile à tout, ça a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Et je veux dire à chacun, et en particulier aux jeunes, privilégiez la piété. Vous ne perdrez jamais votre temps quand dans vos études vous irez à l'église. Vous continuerez de vous investir dans la vie de l'église locale. Quand vous continuerez chaque jour de prendre du temps pour lire la parole de Dieu et prier, alors que vous dites « Ah, mais je suis pressé, j'ai tel boulot, j'ai ceci, j'ai cela à faire, etc. » Vous ne perdrez pas votre temps. Il y a une promesse pour la vie présente. Pas que pour celle qui est à venir, pour la vie présente. Une vraie promesse. Ne passez pas à côté. Prions. Seigneur, tu veux nous interroger chacun, moi en premier, sur là où en est notre piété. Un mot qui revient tant de fois dans cette petite épître et qui en fait un thème à ne pas négliger. Nous avons ce jeune Timothée qui t'aimait, mais qui peut-être passer du temps au gymnase, mais peut-être pas suffisamment dans ta parole et dans la prière, ou qui avait peut-être la tentation d'en passer moins, et à qui Paul rappelle les fondamentaux en l'encourageant à s'exercer à quelque chose qui est utile à tout. Nous voulons te demandez, Seigneur, de nous aider vraiment à nous exercer à la piété, non pas à chercher à planer, à l'extase, à devenir des ermites en nous retirant d'une vie telle que tu as voulu qu'on la vive, une vie familiale, professionnelle, sociale, pas du tout. Garde-nous aussi de confondre la piété avec une liste d'agissements, de cérémonies, de rituels, de formules religieuses à faire, à accomplir. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides dans l'Église, chacun, à prendre du temps pour lire ta parole chaque jour, prendre du temps pour te parler chaque jour. Ne pas négliger, Seigneur, l'œuvre que tu veux faire au travers de l'église locale et que nous puissions nous y impliquer. Vraiment. puis ce qui nous est cher, et en particulier notre temps, notre argent, mais d'autres choses également, que nous puissions les utiliser aussi pour toi. Tu veux nous rappeler que dans notre vie de tous les jours, notre vie quotidienne, cette vie normale d'un être humain normal peut parfaitement se conjuguer avec cette relation à toi, cette piété de tous les jours, concrète et pratique, mais qui vient du cœur. Encourage-nous, Seigneur, à nous discipliner pour cela, afin de ne pas la poser de côté. Merci de nous rappeler la promesse qui l'accompagne, afin de nous encourager. Que nous ne passions pas à côté, Seigneur, de cette promesse de la vie présente et de celle qui est à venir, et dont la clé, c'est une vie de piété avec toi. Au nom de Jésus. Amen.